L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Il est 9h du matin, le 8 septembre 1923. Un magnifique cabriolet beige s'arrête face à l'océan. La cigogne argentée qui orne son capot reflète les rayons du soleil. Il s'agit d'une Hispano Suiza, voiture d'un luxe extrême et rare, même à cette époque. Seuls les rois, les industriels et les stars peuvent se permettre une telle folie. Un homme en uniforme et coiffé d'une casquette en descend et se précipite pour ouvrir la portière arrière de son prestigieux passager. Il est 9h, l'heure âge de mon histoire. L'homme qui descend de ce prestigieux véhicule, c'est François André. Oh, son nom ne vous dit rien, et pourtant, son destin est grandiose. Son héritage connu de toutes et tous aujourd'hui. Mais pour l'instant, l'homme qui descend de la 32 chevaux est encore jeune. Il est beau, charismatique. Le genre d'homme que l'on remarque, que l'on admire. Pas seulement parce qu'il est richement et élégamment vêtu, non, mais parce qu'il en impose, comme on dit. François André est grand. Il a ce regard perçant qui brille d'intelligence. Ce sourire chaleureux qui met à l'aise et qui donne envie de se plier en quatre pour le satisfaire. François retire son panama et regarde la plage qui s'étend à perte de vue. La mer qui scintille sous le soleil encore bas. La plus grande plage d'Europe, lui a-t-on dit. C'est donc ça, la Bolescou Black. Ce trou perdu dont lui a parlé son ami Ambroise Fleury. François ferme les yeux et se remémore les derniers mots prononcés par Fleury, juste avant de mourir sur le champ de bataille. Il se souvient de la promesse qu'il lui a faite d'aller voir la Bolescou Black, le patelin si cher à son camarade de guerre. Il n'y a rien, François, une immense plage déserte, juste en dessous de la Bretagne, mais c'est beau. La baie en forme de croissant de lune est bordée de dunes désertes et de grands pins. Et quand la mer sortir, le sable mouillé s'étend sur des kilomètres et reflète le bleu du ciel. Écoute François, promets-moi d'y aller un jour et d'y créer quelque chose. Tu ne le regretteras pas. Quelques minutes plus tard, une explosion. Un morceau d'acier venait fracasser la tête de Fleury. Alors aujourd'hui, François André tient sa promesse. Il a quitté Paris dans la nuit avec son chauffeur et à présent, il foule le sable de la Bolescou Black. Il flaire immédiatement tout le potentiel des lieux. À l'époque, la Bolescou Black n'est qu'une petite station balnéaire familiale totalement méconnue. Un ancien sanatorium fait office d'hôtel. Et la vieille chapelle attenante est devenue un petit casino. « Monsieur le maire, lance François André, je veux acheter des terrains aujourd'hui. Combien demandez-vous ? » Le maire est intimidé par le charisme et l'aplomb de l'étranger. Et ne sait pas quoi répondre. En fait, il n'a aucune idée de la valeur de la terre par ici. « Allons !» le presse François. « Écoutez, je repars aujourd'hui et je souhaite que tout cela soit réglé avant. Et votre prix sera le mien. » François sort déjà son chéquier. Le maire hausse les épaules, son chapeau serré entre ses mains. « Eh bien, réglons ça au jet de pierre » propose-t-il presque hésitant. Et il faut savoir qu'à l'époque, il arrivait que l'on achète un terrain au jet de pierre. D'abord, on négocie le prix du lancer. Puis l'acheteur lance une pierre aussi loin et aussi souvent qu'il le peut afin de délimiter la surface de terrain qu'il souhaite acquérir. C'est ainsi que François André va créer la légende. Sous le regard éberlué de son chauffeur, il retire sa veste, retrousse ses manches et passera une journée entière à lancer son caillou. À la fin de la journée, il signe au maire un chèque de 18 000 francs, faisant ainsi l'acquisition de ce qui va devenir la pierre angulaire de l'empire bien connu, des hôtels et casinos Lucien Barrière. Tout a commencé en Ardèche, à l'aube du XXe siècle. Un petit paysan nommé François travaille dans la modeste entreprise familiale de bière. Drôle, enthousiaste, la tête bien remplie, il aspire déjà à des rêves plus grands. Et la chance est de son côté. Où est-ce son sourire enjôleur et son bagout qui lui valent d'être repéré? Toujours est-il qu'un oncle saisit le potentiel de ce gamin au tempérament de champion et lui donne sa chance. Écoute, viens à Paris, François. Je dirige une entreprise de pompes funèbres et j'ai besoin de quelqu'un comme toi pour m'aider. Et voilà donc notre petit Ardéchois qui file vers la capitale pour devenir croque-mort. Ni la profession ni le salaire ne sont vraiment attirants, mais François tire vite son épingle du jeu. Et c'est sur le dos des morts qu'il va s'en mettre plein les poches. Il constate que les funérailles, ça creuse, sans mauvais jeu de mots. Et qu'à la sortie du cimetière, ses clients s'éparpillent dans les restaurants du coin, histoire de manger un petit bout. Alors François a une idée. Il repère un bon restaurant juste à côté du cimetière et il propose un arrangement au patron. Bon, écoutez-moi, je vous amène les clients après l'enterrement et vous me versez 15% de votre chiffre d'affaires. C'est bon ? Le patron est médusé par l'aplomb et la confiance du jeune homme. Il accepte, sans réserve. Il ne le regrettera pas. Voilà donc notre beau François André qui gagne rondement sa vie. Il se sent bien dans ce Paris de fin du siècle. Bon, après tout, c'est la plus belle ville du monde, là où il faut être. Le baron Haussmann y a mené des chantiers colossaux. Immeubles, ponts, gares, mais aussi théâtres, parcs. La ville de Paris est en plein essor et François se sent électrisé. Il fréquente les lieux à la mode et se fait des amis. Et partout où il passe, on le remarque. François, c'est un personnage si brillant qu'on se presse autour de lui comme des papillons autour d'une ampoule au milieu de la nuit. C'est d'ailleurs la nuit qui va devenir son terrain de jeu. Et c'est bien de jeu dont il est question. Bientôt, quelques fréquentations vont le faire entrer dans le cercle très privé des salles de jeux clandestines. Baccarat, roulette, blackjack, 21, poker. Derrière les rideaux de velours de restaurants bien comme il faut ou de bordels parisiens, François se découvre une passion pour le jeu. Ainsi, toutes les nuits, il joue. Et comme la grande majorité des joueurs, toutes les nuits, il perd. Puis, comme tous, il emprunte pour pouvoir jouer encore. Il emprunte aux uns pour pouvoir rembourser les autres. Bref, rapidement, il est pris dans la spirale infernale et addictive du jeu et des dettes. Un soir, la tête entre les mains, les coudes encore sur le tapis vert, il réalise qu'il a perdu toutes ses économies et même la somme astronomique qu'on lui avait prêtée pour qu'il puisse se refaire, comme on dit. L'équivalent de 6 mois de salaire. Honteux, il se fait une promesse. S'il s'en sort, plus jamais il ne jouera. C'est une femme amoureuse, qui le sort de ce mauvais pas en lui prêtant de l'argent. Elle s'appelle Hélène et si la jeune femme n'avait pas été promise à un autre pour satisfaire aux exigences de sa famille, François l'aurait sans doute épousée. Par amour, ou peut-être par loyauté. Car François, aussi mondain soit-il, n'est pas un tombeur qui collectionne les conquêtes. Non, il est un homme discret, respectueux. Toute sa vie, les femmes l'aimeront et seront des amis, des alliés fidèles, jouant un rôle majeur dans sa destinée. Et il le rendra bien. Mais il n'en aimera qu'une. Marie-Louise, qu'il épousera quelques années plus tard. Mais je vais trop vite. Pour le moment, François n'en est pas encore là. Il vient de se prendre une belle raclée au jeu. Grâce à la belle Hélène, il a pu tout rembourser. Mais le lendemain de cette déconfiture et de ce sauvetage inespéré, il s'interroge. qui l'emporte réellement au jeu ?
La banque, bien sûr,
lui souffle un ami, connaisseur du milieu. Il suffit de regarder les probabilités.
Enfin, d'après toi, François, pourquoi tant de notables, de vieux barons ont ouvert leur salon clandestin dans leur hôtel particulier ? T'as pas remarqué ? Ils s'approchent même pas de leur propre table de jeu,
continue son ami. Évidemment, in fine, la banque est toujours gagnante.
Ah, c'est décidé, s'exclame François. Si je ne peux plus jouer, je deviendrai donc la banque.
Sage résolution de début de siècle, quand on voit où elle le mènera.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, je vous raconte l'heure H de François André. C'est un nom qui ne vous dit probablement rien, et pourtant, l'homme a fondé un empire en matière d'hôtellerie et surtout de casino. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'un destin incroyable, celui d'un petit paysan ardéchois qui a traversé le XXe siècle en côtoyant les plus grands de ce monde. Ouvrir une salle de jeu n'est pas si simple. Il faut d'abord trouver des associés, un lieu, des investisseurs. Et puis, il faut le dire, quelques magouilles, pots de vin et dessous de table sont nécessaires à l'époque. François André ouvre enfin son premier établissement. L'endroit s'appelle Au Raisin Vert. En façade, c'est un joli restaurant dont la devanture est recouverte de vignes et qui sert une carte de qualité. Derrière la première salle, une rotonde et un petit orchestre appelle à la danse. Il y a aussi un bar pour ceux qui souhaitent prolonger la soirée, et en haut, quelques chambres pour ceux qui souhaitent prolonger le plaisir. Bien avant les premiers hôtels casinos qui feront sa renommée, François a déjà compris une chose essentielle. Pour attirer les joueurs, les faire « durer » entre guillemets, et les faire revenir, une table de jeu ne suffit pas. Alors, il est aux petits soins pour ses clients. Au Raisin Vert, le champagne coule à flot. Les chambres sont cossues, les femmes sont belles. Il y a la belle Otero, Armelle de Roubaix, Isolde de Mortemort. Elles sont célèbres et époustouflantes, mais la plupart du temps, elles sont seules. Étrangement, passé une certaine heure, on ne trouve plus d'hommes accoudés au bar du Raisin Vert. C'est qu'à cette époque, ces dames ne sont pas conviés à passer les portes de velours au fond de l'arrière-salle, celles qui s'ouvrent sur les fameuses tables clandestines. Car en 1900, les jeux se jouent encore entre hommes. Eh oui. Les femmes ne feraient que distraire ces messieurs qui ont grand besoin de sang-froid et de concentration. Alors, en attendant le retour de leurs grands gagnants ou perdants, amis, concubines, putains et grandes cocottes attendent au bar. Parfait gentleman et manipulateur hors pair, François leur prodigue mille attentions pour leur rendre l'attente plus agréable. Il sait que si ces « poules », comme on les appelle à l'époque, passent une bonne soirée, c'est chez lui qu'elles ramèneront leurs richissimes clients. Les poules ne sont pas dupes, mais François est charmant et elles savent qu'il les considère réellement comme des amis. Beaucoup d'entre elles viennent du même monde que lui d'ailleurs. Quelques mois plus tard, François a une idée de génie. En fait, il y pense depuis longtemps, toutes ces femmes qui attendent au bar. Pourquoi ne pas leur ouvrir les portes de la salle de jeu ? Ah oui, pourquoi ne jouerait-elle pas, elle aussi ? Immédiatement, il constate que son idée est un succès. Les hommes flambent davantage en compagnie de ces dames qu'il souhaite impressionner. Ils restent aussi plus longtemps derrière les tables, puisqu'ils ne sont pas attendus par ces dernières. Et puis surtout, les femmes jouant elles-mêmes. Elles sont moins promptes à donner des leçons de morale à leurs mauvais perdants. Bientôt, François sera imité par le tout Paris, et bien au-delà. Mais ça,
Vous l'avez sûrement constaté vous-même. Mais François-André ne connaît pas que des succès. Ne l'oublions pas, au début du XXe siècle, les salles de jeux privées sont bien sûr totalement illégales. François se donne donc du mal pour rincer les agents de police afin qu'ils ferment les yeux sur certaines de ses activités. Il n'est d'ailleurs pas rare de croiser des policiers au Raisin Vert. « Une coupe de champagne, monsieur l'agent ?» propose un serveur. « Voyons Arsène !» s'exclame François d'un ton faussement choqué. « Qu'on offre une bouteille de mon meilleur millésime à monsieur l'agent !» Malheureusement, dénoncé par quelques concurrents jaloux ou policiers un peu trop zélés, une descente de police l'oblige à fermer le Raisin Vert immédiatement. Il lui sera difficile de s'en remettre. Retrouver de l'argent, un endroit, un investisseur, ça demande du temps, de la patience, de la discrétion. François fulmine et se fait une nouvelle promesse. On ne m'y reprendra plus. Quelques mois plus tard, il ouvre le club 33, au numéro 33 de la rue de Courcelles. Et quand la police débarque une nouvelle fois, François reste serein. Discrètement, il distribue des cartes de visite à ses clients, contraint de quitter les lieux. Puis, devant un personnel médusé, il sort une clé de sa poche, marche une trentaine de mètres dans la rue de Courcelles et invite ses employés à entrer au numéro 49. Incroyable. L'établissement est une réplique exacte du club 33. Le restaurant, le bar, les chambres, les salles de jeu, chaque détail y est. Il tend une des cartes de visite aux serveurs qui l'ont suivi. On peut y lire « Rendez-vous demain au 49, rue de Courcelles. Que la partie continue. » Ainsi, par la suite, François aura toujours une longueur d'avance. À chaque fois qu'on fermera un de ses établissements, il en ouvrira un autre le jour même. Et ça se sait dans le milieu du jeu. François-André, on peut compter sur lui. Bientôt, ses clubs ne désemplissent plus. Notables, artistes célèbres, parvenus, hommes d'affaires, mais aussi joueurs plus modestes. C'est aussi ça qu'on apprécie chez lui. François ne fait pas de différence entre les classes. Auprès de chacun, il fait preuve de la même simplicité, de la même déférence. Monsieur André, j'ai tout perdu et je ne peux honorer mes dettes ce soir, lui dit un client penaud qu'il n'a jamais vu. François se renseigne. L'homme n'a rien d'un mondain célèbre. C'est un commerçant honnête qui a joué ses dernières cartes pour sauver son commerce mourant. Cher ami, vous me payerez plus tard, répond le patron des clubs. Vous me payerez plus tard. François ne l'a pas inventé, mais cette réplique courte et géniale lui ouvrira tant de portes qu'elle fera sa fortune. Cette promesse de fortune, eh bien, il y est presque. Il la pressent. Il a 1000 idées à la seconde. Et depuis quelque temps, une nouvelle idée germe dans sa tête. Fatigué des innombrables fermetures de ses tripots clandestins, François se dit que pour être dans une parfaite légalité, il faut avoir un casino. Mais François devra se montrer encore un petit peu patient. Nous sommes en 1914. L'Allemagne vient de déclarer la guerre et François part se battre sur le front. Les rats, le froid, la boue, les bombes. C'est aussi cette maudite guerre qui lui prendra son ami baulois Ambroise Fleury qui, souvenez-vous, lui fera promettre de se rendre un jour à la Baule-Escoublac. 1918. François est désormais directeur du colossal casino d'Ostende. Mais il vise toujours plus grand. Grâce à quelques opérations souterraines rondement menées, il parvient à glaner des parts dans les casinos et hôtels de son grand concurrent Eugène Cornuchet. Cornuchet, c'est un nom qui mérite d'être connu. Il est entre autres à la tête du célèbre établissement Maxim's à Paris, du casino de Cannes et de celui de Deauville. On lui doit également les hôtels Normandie et Royal à Deauville, deux sublimes hôtels de 400 chambres et autant de salles de bain, ce qui est rare à l'époque. Le tout dans un goût et un luxe absolu. Cornuchet l'a bien compris lui aussi. Là où il y a une table de jeu, il faut un hôtel pour que les gens puissent rester le plus longtemps possible. C'est là que les deux hommes se trouvent et se complètent. François-André est le spécialiste du casino, Eugène Cornuchet de l'hôtellerie. Les deux font la paire. Et d'ennemis, ils deviennent associés puis amis. Leur succès va être foudroyant. mais j'aimerais ici faire un petit aparté. D'où vient le mot casino ? Il vient d'Italie, de Venise plus précisément, et cela signifie « petite maison ». Au XVIIe siècle, tous les notables italiens possèdent leur casino et s'y retirent pour se reposer, mais aussi pour recevoir. Ils y organisent des pièces de théâtre, des jeux de société ou des jeux d'argent. C'est à partir de cette époque que l'on voit aussi fleurir dans toute l'Europe des établissements de jeux. Ils s'appellent Redoute en France ou en Belgique. On se souvient de la fameuse Redoute de Spa, inaugurée en 1762. En Allemagne, on trouve des Spielbank. Sous Louis XIV, à la cour de Versailles, la mode est au jeu de hasard et les courtisans perdent des sommes astronomiques à la loterie. Bath, en Angleterre, est la première station à associer cure et jeu d'argent. Mais partout l'on trouve des salles de jeu, la corruption s'installe et l'on finit par interdire ces lieux de mauvaises mœurs. Ce qui ne les arrête en rien de proliférer. Il faudra attendre un décret napoléonien pour que le sport soit officiellement autorisé dans les stations thermales et dans la ville de Paris. Le jeu est évidemment soumis à un contrôle strict devant permettre de limiter le blanchiment d'argent et la fraude. Il va sans dire que le jeu rapporte aussi énormément aux caisses publiques. Bref, tout le monde y est gagnant, c'est le cas de le dire. Au XIXe siècle, on utilise de plus en plus le terme de casino en Europe, importé d'Italie par les architectes qui vont s'y former. En France, le premier casino officiellement reconnu est celui de Monte-Carlo, qui voit le jour en 1863. Mais il faudra attendre que le train desserve Nice et Monte-Carlo pour que le concept prospère véritablement quelques années plus tard.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, je vous raconte l'heure H de François André. C'est un nom qui ne vous dit probablement rien et pourtant, l'homme a fondé un empire en matière d'hôtellerie et surtout de casino. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'un destin incroyable, celui d'un petit paysan ardéchois qui a traversé le XXe siècle en côtoyant les plus grands de ce monde. François André et Eugène Cornuchet. L'un est spécialiste des casinos, l'autre de l'hôtellerie. Deux associés, deux amis. Deux terribles businessmen en plein milieu des années folles. Ils sont puissants, ils sont ambitieux et plus rien ne les arrête. François André fonde le cercle de jeux Haussmann à Paris. Fini les tripots, les salles de jeux clandestines. François peut ouvrir ses clubs en toute légalité, en respectable homme d'affaires, enfin en façade. À eux deux, ils ont fait de Deauville une prestigieuse station balnéaire. Club de tennis, champ de course, rallye automobile, rien n'est trop beau pour leur clientèle. François convainc Eugène d'agrandir encore la station avec la construction d'un nouvel hôtel, l'Hôtel du Golf. Mais pour le moment, François a une autre priorité. Comment arrêter la migration des richissimes clients qui quittent Deauville à la fin de l'été pour retrouver les casinos ensoleillés de Biarritz ou de Monte-Carlo ? Lui revient alors sa promesse faite à Ambroise Fleury, son ami, tué sous ses yeux lors de la Grande Guerre. Et un drôle de nom lui revient, La Baule-Escoublac. La suite, vous la connaissez. C'est au jet de pierre qu'il achète un immense terrain face à la mer. Puis il multiplie les chantiers. Il revoit complètement le vieux casino, l'hôtel Royal. Il fait construire l'hôtel Hermitage et rachète une jolie villa qu'il transforme en maison de vacances pour sa famille. Il lui donne le prénom de sa femme, Castel Marie-Louise. Sur le même modèle que Deauville, François aménage à la Baule ce qu'il convient d'activités pour occuper sa riche clientèle. Course hippique, régate, golf, centre équestre, tennis, boutique de luxe. NSI, Josephine Baker, Coco Chanel, André Citroën ou la famille Rothschild. La station devient un passage incontournable des riches anglais, des plus grosses fortunes de France, des manias sud-américains, des maharajas. François a créé la Baule. « Mais après avoir développé cela, François André doit faire cavalier seul. Son vieil ami Eugène Cornuchet le lâche. Enfin, c'est le foie de Cornuchet qui a lâché. François André le sait. C'est lui qu'Eugène a désigné comme seul héritier de tous ses biens et de la gestion de ses établissements. François a 45 ans, il est richissime, et il est à la tête de l'empire André Cornuchet. Après Ostende, Deauville, Paris, La Baule, les yeux de François se posent à présent sur d'autres villes, Chamonix, Contrexéville, Aix-les-Bains, Le Touquet et Cannes. Dans 50 ans, annonce-t-il aux conseillers municipaux de ce qui n'est encore qu'un petit port de pêche, la Riviera française sera la plus grande ville du monde, étirée le long d'un boulevard sur la mer de 300 mètres de large, prolongée de façon ininterrompue de Saint-Raphaël à Menton. Ainsi, au cours de la trentaine d'années qu'il attend encore, François le Visionnaire va créer le tourisme moderne et dupliquer partout son concept de « resort à la française », réunissant en un même lieu un casino, des hôtels et des installations sportives. À la fin de sa vie, François André a construit un véritable empire. On peut aisément comprendre pourquoi, en 1962, les épaules de Lucien Barrière s'affaissent légèrement à la lecture du testament de François, mort quelques jours plus tôt. Je lègue à mon neveu Lucien Barrière le casino de La Baule, les hôtels Royal, Hermitage et le castel Marie-Louise à La Baule, le casino de Cannes, le casino de Deauville, les hôtels Normandie, Royal et du Golfe à Deauville, le casino de Juan-les-Pins, le cercle Haussmann à Paris, les terrains de golf, de tennis, les piscines olympiques et les centres équestres. Et le notaire de continuer sa longue énumération. Mais Lucien n'écoute plus. Il est le deuxième maillon de l'empire fondé par François, celui qu'il appelle l'oncle. Et il se demande, sera-t-il à la hauteur ? Cela fait quelques années qu'il est déjà administrateur du groupe. Mais à présent, il est seul capitaine à bord et il réalise véritablement l'ampleur de la tâche qui lui est confiée. Heureusement, il a été formé à bonne école et à la dure par François lui-même. Lucien Barrière, tout a commencé un beau jour d'été en Ardèche, alors qu'il labourait le champ de ses parents. François André, l'oncle, décèle le potentiel chez le jeune paysan en sabots. Marie-Louise et François n'ont pas eu d'enfants, et il est temps qu'il songe à sa succession. Voilà notre doux Lucien, qui ne demandait rien, projeté de sa campagne vers les casinos, le luxe, les caprices des stars et les coups de folie des milliardaires. Les débuts sont difficiles pour le jeune agriculteur qui aspirait à une vie simple au milieu de son Ardèche bien-aimée. Et puis au lieu de ça, il se retrouve croupier, chef de parti et même en bout de table à placer les mises, là où on envoie les débutants dans le métier. Bref, l'oncle ne lui fait pas de cadeau. Aucune corvée ne lui est épargnée. Mais Lucien apprend vite. Il n'a peut-être pas le génie et le charisme de François, mais il se révèle assidu et par la suite, il devient un excellent administrateur. Au grand soulagement de François qui se désintéresse de plus en plus à la gestion du groupe. Nous sommes en 1962 et les temps ont changé. L'élégance se perd, les bonnes manières aussi, se lamente François. On voit de tout dans ces hôtels et casinos. Pas plus tard que la semaine précédente, un richissime prince oriental a giflé un de ses directeurs après une mauvaise partie. Hier soir, du haut de son balcon au Majestic de Cannes, un milliardaire américain s'est mis à pisser sur les terrasses inférieures. « Oh, il est bien révolu le temps où j'imposais la cravate dans tous mes établissements », soupire l'oncle, retiré dans sa petite chambre du castel Marie-Louise. Sacré François. Il n'a rien changé à ses habitudes. Il n'a jamais aimé le luxe des grandes suites. Il préfère la simplicité d'une petite chambre sous les combles de l'hôtel. François se lève de son fauteuil, décroche le téléphone. « Pouvez-vous me monter ma soupe ?» Depuis 80 ans, il n'a pas non plus changé ses habitudes alimentaires. À la finesse du caviar, il préfère la saveur de son égo bouilli d'eau. De l'eau bouillie dans laquelle on a plongé de l'ail, un peu de fromage râpé et un filet d'huile d'olive. le plat de ceux qui n'ont pas de quoi se payer à manger en Ardèche. Ça lui rappelle son enfance paysanne. Ça lui a sans doute aussi permis de garder les pieds sur terre au cours de toutes ces années à observer les joueurs parier des milliards, des villas, des bijoux. François déguste tranquillement sa soupe, seul. Son neveu Lucien est à Cannes pour affaires. Marie-Louise les a quittés quelques mois plus tôt et elle lui manque terriblement. Il se demande parfois s'il a su la rendre heureuse. On ne peut pas dire qu'il était un mari très présent. Entre Deauville et Cannes, il a passé sa vie entre deux hôtels, deux casinos, quand il n'était pas assis à l'arrière de sa fameuse Hispano-Suiza. François s'enfonce dans son fauteuil. Il a vécu tant de choses depuis sa petite charrue en Ardèche. Son premier emploi comme croque-mort à Paris. Les premières salles de jeu, le raisin vert, et puis les casinos, les hôtels, les maharajas, les cocottes, les rois, les princes, les princesses, Brigitte Bardot, Tino Rossi, Edith Piaf, Jeanne Moreau, Charles Aznavour, Charlie Chaplin, Alphonse XIII, Winston Churchill. Il a vécu deux guerres. Il a perdu un ami cher lors de la première. Il a vu les Allemands réquisitionner son hôtel Normandie lors de la deuxième. Il a vécu les années folles, assisté aux crises financières. Il a connu des clients suicidaires. Des clients suicidés, des clients menaçant de le tuer. Il a vu des politiques qui refusaient de payer et des rois tricher. Aujourd'hui, il y a des caméras partout, sur les tapis, derrière le sabot d'où sortent les cartes, derrière la caisse. L'art de repérer la triche se fait désormais dans des salles sans fenêtres, au milieu d'écrans. Oui, tout se perd. François a été témoin d'un siècle qui a vu tant de changements, connu tant de bouleversements. François André, le premier maillon de la dynastie Barrière, s'éteint à l'âge de 82 ans, quelques mois après sa femme Marie-Louise. Selon ses vœux, il est inhumé dans le petit cimetière du village de son enfance. Mais les funérailles ont d'abord lieu à Cannes. Ils sont tous là. Famille, amis, politiques, stars, journalistes. Et il y a tous les autres, qui ne sont peut-être pas venus déposer un signe de croix sur le cercueil de François ce jour-là, mais qui ont eu une pensée spéciale pour lui à l'annonce de sa mort. Une ancienne cocotte le remercie pour ce mensonge qu'il a proféré en la présentant un jour comme une noble aristocrate à un riche client. Grâce à François, elle s'est mariée et n'a pas eu à vivre l'humiliation et la solitude qui accompagnent la beauté vieillissante des anciennes courtisanes. Un vieux grand-père se dit avec émotion que si François n'avait pas accepté de lui rembourser tout ce qu'il avait perdu en un soir il y a de cela 40 ans au casino de Monte-Carlo, il ne serait pas là auprès de ses petits-enfants, mais au fond de la Méditerranée. Une vieille femme regarde le bracelet Cartier qu'elle porte depuis 50 ans au poignet droit. Elle était femme de ménage d'une riche cliente de François. Alors qu'elle contemplait la nouvelle boutique Cartier de Deauville, François est passé par là. Devant les yeux admiratifs de la jeune fille, il lui a dit qu'elle pouvait choisir ce qu'elle voulait dans la boutique. Comme ça, un geste gratuit de celui que le monde avait surnommé le roi de la chance et qui estimait peut-être qu'il était juste de donner un petit peu de chance à ceux qui en avaient moins que lui. Peut-être avait-il aussi besoin de se racheter une conscience. Après tout, François savait qu'il n'était pas tout blanc. Mais revenons à l'héritier Lucien. À la mort de l'oncle s'ouvre l'ère Barrière, du nom de Lucien Barrière, bien sûr, le neveu et élève de François. Si François était un visionnaire, Lucien consolide l'empire familial. Il installe les premières machines à sous dans deux casinos à Cannes et Deauville, succès immédiat, de ce qu'on appelle alors les bandits manchots, parce qu'ils soutirent plus d'argent qu'ils n'en font gagner et qu'ils n'ont qu'un seul bras articulé. Lucien a 67 ans. Depuis quelques semaines, il se sent essoufflé. Son cœur se met parfois à battre plus vite. Et puis, il y a cette légère douleur dans la poitrine qu'il gêne de temps en temps. Sans en parler à personne, il consulte quelques spécialistes. La suite est catastrophique. On décide de l'opérer d'urgence. L'angioplastie coronaire consiste à mettre en place aux endroits rétrécis du cœur un petit ballonnet. Le ballonnet est gonflé pour dilater l'artère, puis dégonflé et retiré. L'opération semble avoir fonctionné. Lucien se réveille avant de replonger dans un profond coma. Pendant une semaine, ils sont tous à son chevet. Les meilleurs cardiologues, les meilleures infirmières, sa femme, Martha, sa fille adoptive, Diane, mais Lucien ne se réveillera pas. Le deuxième maillon de l'Empire fondé par l'oncle disparaît. Nous sommes en 1990. Le troisième maillon de la dynastie Barrière, Diane le sait, c'est elle. Elle n'a que 33 ans et se retrouve parachutée à la tête de l'Empire, comme Lucien 30 ans plus tôt. Elle est une femme ? Qu'importent les préjugés de l'époque ? Elle n'a pas qu'un visage de star hollywoodienne. Elle a du tempérament, une rapidité d'analyse et une assurance qui en impose dans ce monde d'hommes. L'oncle a fondé le groupe. Son père adoptif l'a consolidé. C'est elle qui va le moderniser. Après une maîtrise en finance et en fiscalité, elle prend les rênes du groupe. Palace, casino, complexe thermo, boîte de nuit, près de 3000 employés. Celle que certains journalistes appellent l'impératrice des jeux continue de faire grandir le groupe. Elle parvient à acquérir le prestigieux Fouquet's, situé à l'angle des Champs-Élysées et de l'avenue Georges V. Mais une nouvelle fois, le temps du bonheur est interrompu de manière brutale. Diane a 38 ans. Elle est à Cannes pour affaires et prévoit de rejoindre sa famille à La Baule en fin de journée. Elle commande un bimoteur Beechcraft Baron. L'avion vient de Bourges. Il attrape Diane à Cannes et ils prennent la direction de La Baule, sans refaire le plein. Moins d'une heure plus tard, c'est la panne sèche. Les moteurs s'arrêtent. Le pilote est livide. Mais il garde son calme et tente de faire atterrir son avion sur un champ. Malheureusement, l'avion pique du nez et s'écrase dans une terrible explosion. Le pilote et le copilote meurent sur le coup. Diane est en proie aux flammes et hurle. Trois hommes se précipitent depuis la lisière du champ et parviennent à la sortir de l'enfer, ou presque. Diane est atrocement brûlée. Presque tous les os de son corps sont brisés. Le diagnostic des meilleurs médecins est sans appel. Elle ne survivra pas. Commence alors le dernier combat de Diane. Vivre pour ses enfants, pour son mari, pour son entreprise. Défiant tous les pronostics, Diane continue d'assurer la présidence du groupe avec son époux Dominique. Depuis son fauteuil, assistée nuit et jour par une équipe de kinés et d'infirmières, elle donne des ordres, préside des réunions, prend des décisions. La souffrance est continue, son courage aussi. Malgré une centaine d'opérations, après 5 longues années de quasi-agonie, Diane n'en peut plus. Elle n'en peut plus et elle s'éteint, entourée des siens. L'impératrice des Jeux passe le flambeau à son notaire de mari, Dominique de Seigne. Aujourd'hui, Dominique de Seigne est toujours à la tête du groupe. Et pourtant, à première vue, ce notaire au look de playboy n'avait rien d'un roi du casino, mais porté presque malgré lui à la tête de l'entreprise familiale, il a réussi à en faire un poids lourd du luxe, à lui donner une dimension internationale et entrer lui-même dans le club très fermé des milliardaires français. Étonnant. Étonnant quand on sait qu'une partie de cette fortune s'est bâtie au jet de pierre sur une plage de La Baule. Voilà pour ce récit palpitant que j'ai eu le plaisir de vous partager avec la complicité d'Adeline Droit.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.